8h.
Cette année, la ville de Villeneuve-d'Ascq fête ses 40 ans de vie associative. Alors rendez-vous le dimanche 10 septembre de 13h à 18h pour la foire aux associations au Palatium, 2 rue de Bruegel à Villeneuve-d'Ascq, ou de 13h à 18h en direct sur le 106,6, le site campuslille.com ou le DAB+.
Je suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel.
Il est 8h, passé de quelques minutes sur les ondes de Radio Campus, 106,6, et comme tous les premiers lundis du mois, de 8h à 9h, et bien c'est l'heure de Tous Essentiels. Un Tous Essentiels, chose n'est pas coutume, en direct cette fois-ci pour nous remettre de notre joyeuse braderie où Virginie, je crois que tu étais en mode non-stop en face du Café Citoyen.
Ah oui, on est chaud patate, on a passé 2 jours sous le soleil à rencontrer plein de gens. Extraordinaire. Donc j'espère pouvoir vous aider à vous réveiller ce matin avec plein de bonne humeur et autant d'espoir et de dynamisme que j'en ai maintenant.
Et du coup, tu te retrouves avec plein de fiches colorées devant toi. Mais comment tu vas faire pour trier tout ça? C'est pas possible.
J'y ai passé la nuit. J'avoue, j'y ai passé la nuit. Dodo à 1h30 du matin, ce qui n'est pas pour m'aider là maintenant. Mais tellement chaud patate que j'ai une énergie de fou. Je vais vous dire pourquoi.
Ben vas-y.
Alors j'ai juste une petite excuse à présenter à nos auditeurs parce qu'ils ont l'habitude qu'on ait un invité et qu'on pose, ou une invitée, et qu'on pose notre question rituelle à cet invité.
Mais oui, et là vous souvenez, t'as posé la question rituelle à 800 invités.
Mais c'est, alors 500. Mais quand même, donc effectivement, on n'a pas pu inviter les 500 personnes qui nous ont répondu pendant ces 2 jours de braderie. Donc toutes nos excuses et aux personnes interrogées et à nos auditeurs. Mais je vais vous faire un petit résumé. Je vous rappelle quand même notre question rituelle. Imaginez.
Vous feriez quoi avec un revenu de base si on vous donnait tous les mois
de quoi vivre jusqu'à votre mort? Et si jamais vous travaillez, c'est en plus. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Donc cette question, on l'a posée. Alors en quelques chiffres sur ces 2 jours de braderie, j'ai collecté 246 post-it sur notre mur d'expression. Donc on a touché à peu près 500 personnes. Ça va de 8 ans à 70 ans. Tout type de conditions sociales, d'origine, de religion. Quelques-uns connaissaient déjà, mais pour la majorité, c'était nouveau. Et donc, il y a eu cette réaction que j'adore, qui me fait kiffer. C'est comme une drogue, je suis addict de ce regard illuminé d'abord, de dire oh, une ouverture, tiens, waouh, ça s'ouvre. L'imaginaire se décante. Et puis après, le froncement de sourcils pour essayer d'explorer tous les possibles. Et donc, pour faire très très vite, ils sont quasiment tous d'accord pour signer notre collecte, parce que dans 2 mois, on va lancer une collecte de signatures, et oui, pour demander à l'Assemblée nationale d'ouvrir un débat sur le revenu de base, parce qu'on voit bien que les gens ont envie, qu'il y a des personnes de droite comme de gauche qui le portent, mais pour l'instant, pas moyen de poser le sujet sur la table. Peut-être qu'il est un peu trop émancipateur pour le président actuel et peut-être future présidente qu'on aura. Enfin bref, donc l'extrême droite et l'extrême droite n'aiment pas le revenu de base, sachez-le.
C'est pas spécialement étonnant. Hein,
non.
Voilà. Bon. Après, n'attirons pas les fous, entre guillemets, et puis attirons les personnes sensées qui veulent le mettre en place.
Mais tout à fait. Alors, pour faire très vite les tendances générales de ce cru 2023 de la braderie, et ben, ils sont tous intéressés. Voilà. Et même la plupart quasiment, carrément enthousiastes. Donc, il faut savoir que, voilà, ils sont, ils découvrent pour la plupart, mais c'est plutôt étincelant. Il y en a qu'une, 50 ans à peu près, qui nous a dit, mais du coup, je paierai plus d'impôts. Non, ça, c'est une idée qui m'inciterait à travailler moins, du coup, pour payer moins d'impôts. Et du coup, elle est arrivée à l'idée que, ah ben, ça lui donnerait aussi du temps libre, parce que finalement, elle n'en a pas. Elle n'en a pas du tout, et ça lui manque terriblement. Et son fils, juste après, qui m'interrogeait assez inquiet, pour donc 16 ans, hein, le fils, mais alors, du coup, quelqu'un qui a travaillé pendant 50 ans, qui a mis de côté, etc., il devrait tout donner à quelqu'un qui n'a pas travaillé pendant ses 50 ans ? Donc, évidemment, je l'ai rassuré. C'est pas du tout comme ça que fonctionne le revenu de base. C'est juste ceux qui gagnent beaucoup plus, qui redonnent au moins un peu. Après, ça dépend des versions, etc. Donc, voilà, on va rester, en tout cas, pour cette restitution des interviews sur une version qui va entre 500 et 1500 euros. Alors, ça a été l'occasion pour beaucoup de découvrir quelques versions, mais on est resté assez large. L'idée, c'était vraiment qu'est-ce que vous feriez, savoir qu'est-ce que les gens feraient avec leur revenu de base, si ça croisait ou pas les expérimentations partout dans le monde. Donc, grosso modo, à part quelques inquiets donc, sur les autres fainéants, certains disaient même qu'il risquerait d'y avoir un effondrement économique, puisque certains ne travailleraient plus et il y aurait du coup potentiellement plus de supermarchés ou plus personne dans les hôpitaux. Comment faire pour de redonner envie à nos personnels médicaux de travailler à l'hôpital ? Et en fait, le fait de lire tous les autres post-it, les autres participations des autres gens, et aussi de repérer un peu les expérimentations qui étaient derrière notre mur d'expression, ils étaient rassurés. Et ça chamboulait un peu. En fait, beaucoup nous ont dit que ça retournait le cerveau. Carrément.
De penser
différemment. Donc certains ont souligné quelques avantages qu'ils voyaient assez généralement, l'égalité pour tous et même une certaine reconnaissance de chacun, par exemple dans une entreprise. Il y en a une qui est allée jusqu'à l'idée que il faudrait carrément que ce soit le salaire qui soit égal, parce qu'après tout, la dame de ménage ou n'importe quel participant à un collectif économique mérite la même chose que les autres, parce qu'on a la même valeur. Quelqu'un a souligné que la version la plus basse ressemblait furieusement au RSA, mais que c'était quand même mieux parce qu'il n'y aurait pas de contrepartie. On vous rappelle quand même qu'en plus, dans le Nord, nous sommes fer de lance du projet faire travailler les personnes au RSA, parce qu'elles ont que ça à faire, avec toutes les démarches qu'elles doivent faire, s'occuper des trucs un peu banals.
Je trouve aussi que le retour de l'esclavage, on n'en parle pas assez souvent.
Mais tout à fait, mais ça se célèbre, le retour de l'esclavage en France. On avait réussi à s'en débarrasser. Eh bien non, ça revient par la petite porte. Il y a quelqu'un qui a souligné que c'était aussi enfin un réel état-providence, donc un vrai changement de paradigme. Quelqu'un d'autre qui a apprécié la meilleure répartition des richesses. Et puis, des cris du cœur, c'est pas mal du tout, super, point d'exclamation. Et alors, un inclassable, je le mets dans les bonnes nouvelles, même si j'ai pas trop compris pourquoi, mais qui a mis plus de plan cul pour moi. Voilà, mon honnêteté m'oblige à vous le citer. Et alors, au fil de cette émission, à défaut d'avoir un invité, ce qu'on va faire, c'est que on a quand même enregistré quelques témoignages. Donc, on va vous les faire écouter et on va les mettre en parallèle avec les réponses des post-it et autres qu'on a pu noter. Alors, le premier thème, touche la première réaction spontanée qu'on a sur le revenu de base. Ou en tout cas, la première attente, c'est que ça éradique l'extrême pauvreté, quoi. Donc, quelques témoignages et après, je développe.
Allons-y.
Donc, personnellement, ça ne change rien. Mais en tant que citoyen, ça change parce que je m'occupe d'énormément de gens qui sont en difficulté. Et aussi, je suis bénévole dans un centre social et je constaterais que les gens vivraient un peu plus sereins s'ils avaient un revenu de base.
pour moi, ça me permettrait de faire un métier que j'aime et être à l'aise, avoir un filet de sécurité en fait. Pour moi c'est ça, ça joue sur la sécurité et ne pas vraiment se poser trop de questions, ça baisserait beaucoup mon stress. Je ferais plus d'activités qui me plaisent, je passerais moins de temps à travailler.
Eh bien, ça change que je pourrais encore plus profiter de la vie, aller manger avec mes copains au restaurant, aller boire du café avec mes amis encore plus souvent, faire des cadeaux, partir en vacances, être moins dans le rouge, et pouvoir faire grève plus souvent aussi, parce que du coup, j'aurais moins de crainte de baisse de salaire à la fin du mois. Et bah, c'est pas mal déjà, si je peux faire tout ça, c'est pas mal.
Hugo, Dominique et Pascal, respectivement... 24, 70 et 45 ans. Donc vous voyez qu'en termes de panel, c'est pas mal. Donc en fait, à travers ces témoignages, on a juste l'idée que ça apporterait une sécurité financière de base, comme son nom l'indique. Et plus précisément, il y a des personnes qui nous ont témoigné qu'elles utiliseraient ça bah, juste pour pouvoir vivre. Alors notamment deux personnes qui habitent Paris et qui disent qu'avec les aides aujourd'hui ou même avec un salaire, bah ça ne suffit pas. Donc il y a notamment un jeune d'une trentaine d'années qui a été prof à Paris et qui a dû arrêter d'être prof parce que ça ne lui suffisait pas pour vivre et se loger. C'est quand même effrayant. Quelqu'un nous a écrit « Je prendrai soin de ma santé afin de profiter de la vie plus longtemps ». C'est une bonne idée d'essayer de vivre plus longtemps, je trouve.
Oui, bon, après, ça va faire plus de cotisations.
Ah ! Oui, c'est vrai. Mais bon. Bon, sinon, on aurait pu arrêter l'émission là. Je trouvais que l'argument était suffisant. Mais merci, Max, parce que comme ça, on va continuer l'émission et trouver d'autres arguments. Et j'ai rencontré une dame très gênée, 66 ans. Elle a eu du mal à répondre à ma question et j'étais vraiment embêtée d'insister un peu. Mais elle a fini par dire qu'elle avait de tout petits revenus, qu'elle avait la chance déjà d'être propriétaire de son logement, micro-retraite, et que ben, quand même, grâce à ça, elle pourrait manger mieux et surtout, elle aurait moins de stress. Et je mets ça en parallèle avec, on reparlera des étudiants après, mais une jeune de 24 ans qui m'a dit la même chose, qu'elle pourrait manger plus et manger mieux. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que dans notre pays super riche, il y a encore des gens qui ne mangent pas assez. Et des gens qui mangent mal.
Ah bah oui, et puis vu l'augmentation du prix des denrées alimentaires de ces derniers mois, c'est pas prêt de s'arrêter tout ça.
Bah, tout à fait. Et alors on entendait Pascal aussi qui disait que ça lui permettrait d'aller boire une bière avec ses copains, etc. Et effectivement, il y en a quelques-uns qui ont salué le fait que ça apporterait un peu plus de confort. Donc là, c'est ceux qui ont quand même suffisamment pour vivre minimum et qui apprécient le petit plus. Donc certains ont cité un peu plus de loisirs, même des jeux vidéo ou un ciné de temps en temps. Et alors, il y a un jeune de 23 ans qui me dit sa bière et sa clope à la main, hédonisme, consommation.
Ah bah tiens.
Voilà, il assumait tout à fait d'avoir envie de vivre, de profiter de la vie. Et en réfléchissant un peu, il me dit... Oui, alors bon, être hédoniste, un moment, oui, ça va un moment, mais après, je pense que je commencerai à déprimer. Et quand je le titille un petit peu en disant, voilà, et après, qu'est-ce que vous faites, du coup ? Eh bien, il m'a dit anxiolytique. Voilà. Donc, je vous le donne comme c'est. Et en fait, en allant un peu plus loin, là, on est en termes de confort de vie. Il y en a qui vont un peu plus vers partir en vacances. Tout simplement, parce que certains ne peuvent pas, ou partir un peu plus. Il y en a une qui dit « je partirai avec mon chéri », parce qu'ils ne peuvent pas, en fait. Juste partir à deux, c'est déjà trop. Un certain nombre aussi ont parlé de voyage. Je ne sais pas si c'est le fait d'être le 1er septembre, mais voilà, les voyages, repartir.
Un retour de vacances.
Sans doute. Donc, partir, alors pour du repos d'abord, pour des rencontres. Certains pour retourner au pays, pour pouvoir revoir la famille. Et puis certains nous ont précisé, ce serait voyager en train, en van, à pied, sac à dos, voilà. Et donc du coup, on retrouve aussi ce côté, ce changer d'air, quoi. Et puis un étudiant qui nous dit, voyager 5 ans, 10 ans, et puis après, m'installer et travailler.
D'accord.
Voilà, c'était comme une étape. Et apparemment, pas mal d'étudiants, effectivement, mettent en avant le fait qu'ils aimeraient ils aimeraient prendre le temps de découvrir, découvrir d'autres modes de vie, d'autres modes de société avant de s'installer et de construire, de participer à la leur en fait.
Pas mal, pas mal tout ça. Un petit peu de musique alors.
Yes.
Allez, allons-y. Eh bien, on la passe souvent, mais très souvent. Alors du coup, je vais en mettre une autre de Renaud Bistan. C'est la dernière qui vient de sortir, qui est un peu à l'opposé total. Hein, tu sais, c'est « Et si demain tes enfants faisaient exactement l'inverse de ce que tu voudrais qu'ils fassent ?»
Waouh.
Dans les festoches, on l'a traîné à nuit debout. On lui a montré du Ken Loach. On a vraiment fait de notre mieux. Mais aujourd'hui, ça nous bouleverse. Notre fils nous apprend qu'il veut faire une école de commerce. On aurait dû faire attention depuis déjà un mois ou deux. Il faisait d'étranges réflexions, s'aspergeait d'un parfum douteux. On aurait dû être plus subtil, comprendre tout ce qu'il traverse. Notre fils nous annonce qu'il veut faire une école de commerce. On le voyait instituteur, paysan, chauffeur, menuisier, journaliste, puériculteur, sage-femme, chômeur ou jardinier. On était vraiment prêt à tout, mais là, ça tombe comme une averse. Très froidement, il nous avoue qu'il veut faire école de commerce. Sa mère est effondrée, se réveille en larmes la nuit. Elle essaye de lui parler, mais on voit bien qu'il n'est plus lui. Du fond de son regard vitreux, son regard où plus rien ne perce, il répète en boucle qu'il veut faire une école de commerce. Insensés, parle de capitalisme éthique, de bitcoin, d'argent à placer sur des positions stratégiques. Il récite comme une prière toutes ces paroles qui le bercent. Il demande qu'on le laisse faire, qu'on lui paye l'école de commerce. Je revois petit tout crado avec son jogging couleur pêche, quand avec juste un sac à dos on partait marcher en Ardèche. Maintenant faire de la moula, du bail, c'est la seule chose qui l'intéresse. Il veut même partir à Dubaï après son école de commerce. Il mate le soir en cachette des vidéos de traders, se radicalise sur le net. Alors je pense à sa petite sœur, maintenant c'est elle qui m'inquiète. Elle poste des photos tendancieuses, je vais me jeter par la fenêtre. Ma fille veut être influenceuse. Influenceuse.
Renaud Bistan sur les ondes de Radio Campus, 106,6 avec son école de commerce. On continue avec tous ces essentiels, l'émission du revenu de base tous les premiers lundis de 8h à 9h sur les ondes de Radio Campus, 106,6.
Et on va inviter Dominique, Léa, Maxime et Virginie, interviewés rien que pour vous.
L'État a mis en place un grand nombre d'aides qui ont pour conséquence de stigmatiser les gens qui reçoivent ces allocations, ce qui les empêche de se projeter et qui les empêche d'avoir suffisamment confiance en eux. Si on avait un revenu de base et si ce revenu était distribué de manière automatique et systématique, ces gens-là pourraient reprendre confiance en eux et pouvoir envisager un avenir un peu plus serein. En plus, ça permettrait notamment un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes au niveau du revenu. Donc, en résumé, je disais un revenu de base, non pas pour exister, mais parce que j'existe.
Alors moi, je suis prof et je suis aussi maman. Et je suis spécialisée dans la régulation des violences scolaires. Et je suis sûre que dans 10 ans, si on avait un revenu de base, il y a toute une partie de mon boulot qui prendrait vraiment du sens parce que je pourrais agir plus facilement sur la violence, juste parce qu'il y aurait au moins une cause systémique qui serait enlevée, c'est la pauvreté et la précarité en fait. Et je suis sûre qu'avec un revenu de base, il y aurait moins de violence, les élèves seraient du coup plus sereins, ils pourraient mieux apprendre, ils pourraient mieux se projeter avec plus de confiance. Et je pense aussi à mon fils qui a 11 ans en ce moment. Et je pense que son début de vie d'adulte serait aussi plus libre parce que plus sécurisé avec un revenu de base.
Moi je suis d'accord en vrai, du coup pour prendre son indépendance c'est beaucoup plus simple.
Nos parents ils auraient moins à se soucier de si on a de l'argent pour pouvoir, par exemple, se payer le permis ou toutes des choses comme ça. Puis ça peut nous ouvrir des opportunités si on veut se lancer dans un projet. Et oui, oui, franchement, ça pourrait être super utile, ça pourrait aider beaucoup de monde et je pense que ça pourrait être une bonne chose dans l'avenir.
Avoir un revenu de base universel, ça me permettrait de...
Pour moi, un revenu de base, ça me permettrait de gagner beaucoup d'autonomie déjà par rapport à mes parents, ce qui pourrait me changer ma trajectoire d'études. Et donc, dans 10 ans, ça pourrait changer complètement là où je me trouve en fonction de ne pas avoir à se soucier de se loger ou de se nourrir. Ça permet d'explorer plein d'autres choses, que ce soit même des choses non lucratives, voilà, qui aujourd'hui impactent mes choix d'études et d'avenir.
Voilà, merci à tous ceux qui nous ont répondu. Là, on aborde alors principalement le thème des études, des enfants et des jeunes. Je vous rappelle qu'en France, quand vous avez 18 à 25 ans, vous pouvez payer des impôts. Vous pouvez aller en prison. Mais vous n'avez pas d'aide. Il y a une étudiante qui a eu une expression assez intéressante, qui a dit ben « Moi, j'ai la chance d'être subventionnée par mes parents ».
Mais c'est un peu ça. Hein.
C'est oui,
que hein. Soit on a la chance d'être subventionné par les parents, soit par un McDo. Mais bon, McDo, c'est moins drôle.
Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, c'est assez intéressant de voir les politiques actuelles qui déchargent la responsabilité collective de soutenir les étudiants ou même les jeunes travailleurs ou ceux qui essayent de trouver du travail entre 18 et 25 ans. Et c'est complètement déchargé sur la famille. Elle abandonne la famille quand même. Hein. En tout cas, c'est bien utile. Alors, les étudiants, ils nous parlent d'abord d'avoir de bonnes conditions pour étudier. Ça a l'air évident et pourtant la plupart d'entre eux galèrent vraiment. Donc pour ceux qui bossent, c'est très compliqué parce que c'est une surcharge de travail. Je vous rappelle qu'être étudiant, c'est un travail en soi. Hein, c'est souvent assez intellectuel, assez lourd, assez stressant avec des évaluations, tout ça. Quelquefois pas tout près de chez soi, donc il y a en plus des temps de transport, tout ça, des coûts. Et en termes d'horaire et en termes de surcharge. Donc avoir un job étudiant, c'est très pesant. Merci à tous ceux qui font des efforts, que ce soit dans les entreprises ou dans les facs, pour que ce soit compatible. Mais ça ne devrait pas être compatible, voilà, d'emblée. Voilà. Ensuite, ils évoquent l'indépendance par rapport aux parents, comme on a entendu la jeune Léa de 16 ans. Parce qu'être indépendant par rapport à ses parents, c'est important. C'est une façon d'être autonome, être indépendant financièrement. Et certains même disent que ça pourrait m'aider à soutenir mes parents dans leur subvention à moi-même.
Et puis, si les parents ne sont pas d'accord pour qu'on fasse une école de commerce, au moins, on peut en faire une quand même. Quoi, même si
oui, par exemple. Alors après, il y a des raisons très diverses. Donc, par exemple, l'école de commerce, ça c'est sûr. Mais il y a aussi, je pense à un ancien élève dont les parents n'ont pas trop bien supporté son coming out homosexuel. Et pour l'empêcher de vivre une vie nocturne à Lille, il le gardait dans le giron familial en lui refusant tout soutien financier, sauf s'il s'engageait effectivement à mettre son homosexualité de côté tant qu'il était sous leur charge, on va dire leur responsabilité. Il parlait aussi de pouvoir, du coup, en termes d'études, pouvoir plus choisir. Alors choisir non pas un métier parce qu'on sait qu'il y a des débouchés et certains ont évoqué des métiers plus techniques. Il y en a une qui parlait de physique, j'ai pas tout compris, mais voilà. Alors que en fait dans son rêve, c'est partir autour du monde pour faire de l'humanitaire.
Ah oui, pas grand-chose à voir.
Pas grand-chose à voir. Et alors, autant sans doute qu'avec des études de physique, elle s'en sort, puisqu'elle était en troisième année, donc j'imagine qu'elle réussit quand même au moins jusqu'à la troisième année. Mais en même temps, je m'interroge pour après, c'est-à-dire que quand elle va faire son boulot, peut-être que ça va lui plaire, mais ça veut dire quand même qu'elle met de côté un certain nombre de choses, et notamment, au-delà d'un projet très précis comme faire le tour du monde en humanitaire, c'est le lien avec les gens, c'est se sentir utile, etc., qu'elle vivra peut-être moins directement en travaillant dans des recherches physiques, dans un laboratoire, quoi. Donc j'imagine ou je crains qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui explose en elle parce qu'elle a mis de côté une appétence particulière. Et enfin, on a eu un témoignage assez touchant aussi d'un jeune de 16 ans qui rêve de rentrer dans une école d'art. Et ce qui le freine, c'est le prix des fournitures. Ah oui, oui. Parce qu'en école d'art, apparemment, c'est assez cher. Mmh. Donc, ses parents sont d'accord, il n'y a pas de souci, mais ils risquent de ne pas pouvoir y aller. Juste un souci financier.
Et c'est pour ça qu'il était à la braderie, c'était pour rassembler son trousseau et...
Peut-être, bon, c'est pas sur notre stand qu'il les a trouvés, mais voilà. Une autre idée intéressante, au-delà des étudiants ou des 18-25, c'est l'idée de la formation toute la vie. On a eu plusieurs personnes qui nous ont dit, soit pour changer de boulot, donc pour une reconversion professionnelle, se dire, j'ai envie de changer, mais il me faudrait une formation de remise à niveau, etc. Et je ne peux pas arrêter de travailler pour faire ma formation et retrouver du travail, parce que j'ai aucune sécurité entre les deux. Voilà. Et sinon, il y a ne serait-ce que l'idée de continuer à apprendre toute sa vie, parce que certains métiers ne comportent pas ni de créativité, ni d'apprentissage, d'évolution intellectuelle ou même culturelle, etc. Et voilà, pouvoir compléter son métier habituel, qui ne change pas trop, par des formations, quelquefois même qui n'ont rien à voir avec son métier, mais ne serait-ce que pour se sentir vivant, se sentir évolué. Donc c'est même des personnes qui nous ont dit « je continue à travailler comme avant, ce n'est pas le problème, mais j'aimerais bien pouvoir aussi me former, découvrir, rencontrer, quelque chose d'un peu plus stimulant. » Donc c'est pas forcément contre le travail, c'est pas forcément... Mais aller vers quelque chose qui nous plaît plus. Et quelqu'un nous a même dit en fait, je continue à travailler sans rien changer. C'est juste que ça sera choisi. Juste le fait de me dire c'est choisi, parce que j'aime mon métier, mais rien que le fait de me dire c'est obligé, ça me plombe. Et rien que le fait de me dire c'est choisi, j'ai plus envie. Donc forcément, je vais le faire mieux. Et cette personne avait même réfléchi un peu plus à nous expliquer qu'elle a 46 ans, elle travaille dans une structure qui répond à des appels à projets. Et en fait, donc visiblement, c'est quelque chose qui a du sens, c'est dans le lien à la personne, etc. Mais le fait de devoir faire des appels à projets, ça oblige à raboter les salaires pour être concurrentiel et être choisi, parce qu'hélas, les appels à projets se terminent souvent par le moins 10 ans, c'est celui qui est le moins cher est pris. Et du coup, ça perd du sens et de la reconnaissance en son travail, alors qu'elle disait si elle avait un revenu de base, elle choisirait d'accepter finalement de travailler dans d'autres conditions pour pouvoir faire quand même ce qu'elle a envie de faire parce que c'est utile. Donc il y a toute une réflexion comme ça sur le niveau de reconnaissance que l'argent donne et en même temps une reconnaissance qu'on se donne à soi-même et qui peut compenser certains métiers même moins rentables entre guillemets. Donc voilà. Alors, elle précisait quand même qu'il y avait un minimum vital sous lequel elle ne descendrait pas. Donc c'était quand même équilibré. Donc toutes ces personnes, on a entendu aussi, parmi toutes ces personnes, on a eu deux femmes qui ont eu un témoignage qui a beaucoup marqué tous ceux qui ont regardé les post-it après leur passage. Il y en a une qui a écrit « Je lâche mon mari !» Point d'exclamation.
Ah oui, paf.
Voilà. Et une autre qui n'avait pas vu ce post-it-là, une jeune retraitée, 63 ans, qui me raconte que elle aurait divorcé plus tôt. Elle aurait divorcé plus tôt et pourquoi elle ne l'a pas fait ? C'est juste parce que elle avait des enfants et qu'elle savait qu'au mieux, elle réussirait à trouver un mi-temps en quittant son mari et que ce mi-temps ne suffirait pas pour payer les études de ses enfants. Et donc, elle est restée avec une personne qu'elle n'aimait plus, juste pour pouvoir plus tard payer les études dont elle n'avait pas les moyens, et ses enfants non plus, puisqu'ils n'avaient pas leur revenu de base non plus. Et c'est intéressant, et ça a beaucoup fait jaser autour du mur d'expression. Certains en ont ri, mais tous ont réfléchi du coup à ce rapport en fait, qui nous lie dans un couple, qui finalement n'est plus du tout l'amour. Donc l'aune d'un couple, c'est de moins en moins, en tout cas, l'amour que l'équilibre financier. Alors bien sûr, c'est deux types de sécurité, on est la sécurité affective et la sécurité matérielle, mais c'est quand même dommage que la sécurité matérielle influence...
À ce point,
voilà. Et avec une réflexion aussi, un peu comme le travail, c'est que si je suis en couple avec quelqu'un, alors je parle en tant que femme, mais ça pourrait être l'inverse aussi, avec quelqu'un parce que je suis obligée, parce que je n'ai pas les moyens de le quitter, que ce soit pour moi ou pour les enfants, du coup, je vis cette relation comme subie. Donc forcément, ça va pas. Enfin, forcément, ça, c'est le ver qui pourrit le fruit, quoi. Alors que si je peux partir, je me pose vraiment la question du choix. Est-ce que cette relation me convient ou pas? Alors, est-ce que voilà, je l'exprime. Bon, ça, c'est des questions plus personnelles. Mais rien que le fait de choisir la relation librement par amour, sans contrainte, je pense que ça pourrait améliorer certaines relations de couple, au-delà de la capacité juste de pouvoir partir. Et on ne parle même pas là des femmes, des hommes battus, etc. Quand il y a violence, c'est encore autre chose. Donc voilà, ces deux témoignages nous ont beaucoup marqué. Une petite musique, maestro?
Eh bien, écoute, c'est parti tout seul, mais...
je sens que tu as le clic qui est prêt, là. Vas-y, vas-y.
Voilà. Eh bien, écoute, allez, je te propose une autre chanson de Renaud Bistan, parce que, bah, décidément, j'aime bien ce gars-là, avec Hexagone. C'était le titre 2020, cette fois-ci, la reprise qu'il a fait pour 2020.
Être né sous le signe de la classe moyenne, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. On s'embrasse au mois de janvier, dans la joie et dans l'insouciance. On se souhaite une bonne santé pour l'année nouvelle qui commence. Il vaut mieux l'avoir la santé, vu que l'hôpital crève en silence. Les services publics sont flingués dans la plus grande indifférence. Lorsqu'en plein mois de février, il fait 30 degrés à la neige, on veut quand même aller skier, on réclame les canons à neige. Pour notre loisir égoïste, on videra les réserves d'eau, mais on ne quittera pas la piste et notre belle combi fluo. Lorsqu'au mois de mars, on est lit de l'autre côté du Mont Blanc, un apprenti Mussolini, pas très cool avec les migrants. Certains quand même trouvent ça flippant, ne veulent plus prendre le Fréjus, mais on oublie que notre président aussi a refusé l'Aquarius. En avril, c'est les premiers bons week-end à Rome ou à Lisbonne. On est très fan de prendre l'avion, on se fout bien du bilan carbone. EasyJet et Airbnb, c'est l'opium des classes moyennes. Se faire le monde en mode selfie, si possible trois villes par semaine. Être né dans la bonne classe moyenne, souvent c'est penser qu'à sa gueule. Souvent c'est répondre aux sirènes qu'on s'en sort mieux tout seul. En mai, il y a un nouveau suffrage, mais il n'y a qu'un seul candidat, celui qui est censé faire barrage à la peste, au choléra. On crie partout que les abstinents mériteraient la chaise électrique. Ben ouais, trois jours tous les cinq ans, on se chope une conscience politique. En juin, il y a la nouvelle saison sur Netflix de cette série qui nous scotchera à la maison avec un plateau de sushis. La Terre peut s'arrêter de tourner, l'écran restera face à nous tant qu'un larbin vient nous livrer dans sa tenue des livres. En juillet, on apprend comme ça que tout se meurt sur la planète, que bientôt, à part le chihuahua, il n'y aura plus une plante, plus une bête. Face au changement climatique, aux grosses vagues de chaleur, la seule réaction, c'est tragique, c'est de s'acheter un climatiseur. Au mois d'août, on ressort les bobs, nous, ce qu'on aime, c'est voyager. On se demande bien quel coin du globe on pourrait aller saccager. On laisse les beaux fapes à la vase, on veut se distinguer du lot. Bali, c'est quand même plus classe pour Instagram et son maillot. Être né sous le signe des classes moyennes, c'est pas la gloire assurément. De Caluire jusqu'à la Mayenne, c'est être un voisin vigilant. En septembre, c'est la rentrée, l'abonnement aux salles de sport. On veut de beaux abdos fessiers, putain qu'on est fan de notre corps. En couilles partout autour, mais en bon monstre auto-centré, nos regards débordent d'amour pour ce youtubeur beauté. En octobre, le salon de l'auto dit que pick-up et SUV tiennent maintenant le haut du plateau, qu'on aurait tort de se priver. Alors comme la tendance est là, qu'on a quelques sous à la banque, c'est comme ça, on réfléchit pas, et désormais on roule en tank.
lorsqu'en novembre sur les ronds-points ça se met à bouger tout à coup. Vu que ça concerne le prix du plein, on dit ouais à fond avec vous. Mais quand la révolte s'étend, veut changer les règles du jeu, on dit d'un ton condescendant, t'as eu 100 balles, qu'est-ce tu veux de mieux? En décembre c'est l'apothéose, la grosse bouffe et les petits cadeaux. On veut pas se la jouer morose, se dire qu'on en fait un peu trop. Mais bien qu'on veuille se faire rêver avec l'iPhone du fiston, au fond on sait qu'on va crever de cette hyper-consommation. Être né sous le signe des classes moyennes, ce n'est pas une fatalité. Pour peu qu'un jour l'envie vienne de faire un pas de côté.
Et un pas de côté, bah peut-être ce sera le revenu de base, sait-on pas, hein? Ce serait bien, ce serait vachement mieux un pas de côté comme ça, quoi.
Mais oui, alors figure-toi que le pas de côté qui fait peur à tout le monde, c'est les gens sont fainéants, hein, c'est bien. Les jeunes, ils veulent pas travailler, les vieux, ils sont déjà en retraite, les femmes, dès qu'elles ont un enfant...
Ah mais alors, t'as eu combien de fainéants dans tes 500 papiers?
5.
5.
C'est fou.
Ah bah, c'est pas...
Ça fait 1%. Hum. Mmh. C'est pas tant que ça, finalement.
C'est pas beaucoup.
C'est 1% des gens arrêtés de travailler, surtout dans quelques boulots toxiques.
Alors, tu sais, au niveau statistique, ils considèrent que 3 à 4%, c'est la marge d'erreur quand on fait un sondage.
Ah bon ?
Oui, il y a toujours 3 à 4% des gens qui comprennent pas la question et qui répondent à côté de la question. Donc, du coup, naturellement, on les élimine, ceux-là. Voilà,
non. Alors, d'abord, on va pas traiter d'erreur ceux qui décident de ne rien faire. Ensuite, je ne te remercie pas de mettre en doute ma capacité, notre capacité pédagogique, parce qu'on était plusieurs quand même à interpeller les gens. Uh-huh. Non, les gens ont très bien compris. Non.
D'accord, bon, ça.
Non, ils sont tout à fait responsables. Je vais te montrer, parce que franchement, il y a quelques témoignages qui valent le coup. Alors, il y a 5 personnes qui nous disent qu'ils continuent de travailler sans rien changer. Voilà. Mmh. Parce qu'ils aiment leur travail, que ça les éclate. Donc, une infirmière, par exemple, qui dit « Mais moi, ça a tout à fait du sens. » Donc, voilà. Donc, il y a 5 personnes qui ne changent absolument rien. Et la plupart des gens disent « Mais en fait... peut-être que tous les matins, ils râlent quand le réveil sonne. Hein. On est un peu humain et c'est rarement agréable. » Et en même temps, une fois qu'ils se reposent la question, qu'ils se redonnent ce fameux choix dont on parlait, bah, ils se rendent compte que le travail, bah, ça évite l'ennui. Beaucoup évoquent l'ennui, le fait de rien faire, que ça serait insupportable au-delà des vacances. Beaucoup évoquent l'utilité aussi, trouver sa place dans la société, qui est une forme de participation aussi, d'échange avec les autres. Certains évoquent aussi le fait d'être stimulé intellectuellement, de rompre l'isolement aussi, pour le travail, l'emploi en tout cas. On reparlera de cette différence travail-emploi, mais c'est aussi un endroit où on a un réseau social, etc. Il y a une jeune de 25 ans qui témoigne que à la fin de ses études, elle a été quelques mois comme ça, sans travail, au chômage. Et ça l'a beaucoup stressée, parce que ça a été une désocialisation, du stress aussi de ne pas savoir quoi faire dans la vie en général, autant pour elle, le sens de sa propre vie, que vers les autres, la place qu'elle aurait dans la société. Et visiblement, ça a été une expérience assez traumatisante. Alors, pas non plus anticipée et préparée. On a eu aussi une retraitée qui nous a dit qu'elle avait anticipé sa retraite 2 ans avant. Elle commençait à s'habituer à l'idée. Alors autant pour la voir venir et tenir le coup, mais aussi pour la préparer. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce temps libre qui arrive d'un seul coup? Et donc elle était allée démarcher des associations, où est-ce qu'elle avait envie de s'investir, l'équilibre avec la vie de famille, les petits-enfants. En fait, elle avait préparé, elle avait construit sa retraite pour éviter le grand choc, le grand vide, quoi. Donc c'était assez intéressant cette réflexion sur le temps libre, le temps comment on l'occupe, comment on choisit de l'occuper. On revient toujours à cette question du choix. Et alors j'ai envie de citer les petits jeunes, parce qu'on a eu plusieurs mineurs, de 8 ans à 11 ans, qui finalement nous disaient que...
Des mineurs mineurs, là, pour le coup.
Oui. Oui, je n'ai fait que leur poser une question. Hein. Mais la notion de travail était importante pour eux. Il y en a un qui disait, comme ça, je pourrais travailler un peu et profiter de la vie. Il y en a une qui nous disait, ah non, mais le travail, c'est important. Un autre nous a dit que le revenu de base, ça pourrait aider à faire du bien aux gens et à nous. Mais elle avait tellement envie d'être architecte que pas prête à lâcher la notion d'emploi. Hein. Voilà, il y avait de l'envie en un ou deux mots. Voilà, donc en tout cas, un élan qui reste vivace, que ce soit sous forme d'emploi ou sous forme de bénévolat, mais en tout cas d'activité utile et en lien avec les autres. Ça, ne vous inquiétez pas, les gens ne sont pas fainéants. Et les gens, au contraire, continueraient à s'investir. Et à l'inverse, alors c'est assez rigolo, comme quoi, sur tous les post-it qu'on a eus. Donc, autant 5 disaient ne rien changer, autant 5 arrête totalement. Alors, on a eu des post-it du genre « rien branler », voilà, ou « détruire le capitalisme avec une bonne sieste », écrit en majuscule, et 2 « je pars au fond des bois ».
Ah bah oui.
Rien que de lire ça, ça me détend. J'ai l'impression, rien que... Là, ça me projette dans une ère de repos. Voilà, mais ça fait du bien aussi de voir que 5 personnes s'autorisent à sortir d'un conditionnement, peut-être, ou d'un système de travail-emploi obligatoire, rentabiliser sa vie, une sorte de productivité qui est pesante, en fait, hein, vraiment. Donc, le fait de s'autoriser à imaginer autre chose, pour moi, ça, c'est... Alors, une preuve qu'ils étaient à l'aise avec nous et qu'ils osaient dire le fond de leur pensée. Et ensuite, voir qu'il y a des imaginaires qui sont suffisamment ouverts pour aller contre certaines croyances que c'est pas bien de, il faut mériter, voilà, des choses comme ça. Donc j'avais envie de saluer ça et de continuer sur ceux qui continuent à travailler à temps plein. Alors, quelquefois en changeant, on verra les conditions de travail, mais en tout cas à temps plein. Et ces personnes-là, c'est surtout pour le plus d'argent. On va écouter Lise et Rosetta. Qu'est-ce que les gens feraient avec cet argent en plus ?
J'aurais moins de choses à penser, même pour ma famille. Je pourrais l'aider. Donc,
Mon revenu de base, je le mettrais de côté pour mes petits-enfants, pour qu'il n'y ait pas de complications au niveau des études par la suite. Ce serait bien. Ce serait bien parce que ça simplifie quand même la vie.
Donc là, on a entendu Lise et Rosetta, très jeune, 16 ans, et l'autre juste un tout petit peu moins jeune, 66 ans. Et on entend qu'elles ont toutes les deux l'élan de soutenir la famille, mais chacune à son bout, en fait. L'une petite fille, l'autre grand-mère. Et on voit beaucoup que les gens qui continuent à travailler... donc il y a cet argent qui leur vient. Donc on a vu quelques-uns pour un peu plus de confort, des sorties, des loisirs, mais la plupart c'est pour aider, en fait, pour donner, pour partager. Alors certains pour la famille, pour les amis, les enfants, les parents, on l'a entendu, bref, les proches. Il y en a une qui dit assurer l'avenir de mes 3 enfants, l'autre qui dit mettre la daronne à l'abri. Alors, je sous-titre pour ceux qui ne vivraient pas tous les jours avec des jeunes. La daronne, c'est la mère. Donc, protéger sa mère, ça revient, c'est revenu plusieurs fois. D'autres vont donner des dons pour des associations, histoire de rendre le monde meilleur, tout en gardant pas forcément de disponibilité en termes de temps, mais du coup, pouvoir donner sous forme d'argent. Et un témoignage, je serais plus heureux qu'il n'y ait plus autant de pauvres. C'est pas mal. Et on va entendre juste Patrick, qu'on a interrogé et qui nous dit un peu ça.
Ça donnerait un minimum de sécurité à tout le monde. Donc les gens qui seraient autour de moi seraient pour moi plus sereins, moins stressés. Donc si mon entourage est moins stressé, ben moi je serais mieux, je vivrais mieux aussi.
Et voilà, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas franchement concerné directement par le revenu de base, peut-être parce que vous recevez déjà une forme de retour sur un investissement qui s'appelle la retraite, et ben vous pouvez aussi souhaiter qu'autour, les gens soient plus heureux, plus sereins, moins pauvres, ne serait-ce que pour vous, mieux profiter sans remords, sans regrets, sans mauvaise conscience d'un niveau de vie normal, quoi. Une autre piste pour cet argent qui serait gardé, c'est d'investir. Beaucoup ont parlé d'investir, d'épargner. Alors, dans le développement durable, ou pour soutenir des start-up. Voilà, pour soutenir d'autres personnes qui ont envie de lancer leur activité. Et plusieurs personnes ont cité la bourse. Alors comment dire, moi j'ai quelques préjugés contre la bourse, surtout quand je vois qu'aux informations, il y en a qui jouent sur les cours du blé, par exemple, ils affament des populations entières. Donc j'étais assez interlocutée par ces réponses-là. Et en fait, en creusant un peu, j'ai discuté avec un gars qui a 46 ans et qui me dit que « Ah non, c'est pas du tout les jeux financiers, voilà, il n'est pas du tout là-dedans. » Par contre, pour lui, le fait d'investir en bourse, outre pour lui-même, mais c'est aussi pour faire travailler les autres. C'est en fait des investissements qui permettent de donner du travail.
Ah oui, bon, on peut le voir comme ça,
effectivement. Et donc des revenus. Mmh. Bah, voilà, quand on est encore dans cette articulation obligatoire du travail et du revenu, c'est bien, je donne du travail aux gens. Mais tu vois, du coup, Max, là où penser différemment est intéressant. Parce que ce gars-là, il part franco en disant « Quand j'investis en bourse, je donne du travail, donc je fais du bien à l'humanité. »
Je pense que il parlait plutôt de la bourse des années 20, mais 1920, je veux dire.
Peut-être, en tout cas, pas une bourse dévoyée comme aujourd'hui. Voilà, mais c'est intéressant de voir que lui se raconte que quand il investit en bourse, c'est aussi pour les autres. Et donc, quand on a discuté un petit peu, il était très ouvert, très intéressé par justement ce retournement de la pensée que je lui proposais, de se rendre compte qu'on pouvait du coup souhaiter juste aux gens d'avoir un revenu et de choisir de travailler, comme lui d'ailleurs, parce que lui disait pour lui-même qu'il continuerait à travailler. Et que quel intérêt de créer des emplois quand on n'en a pas besoin ? Et on a une telle productivité, un logiciel qui remplace 500 000 personnes en faisant un travail, c'est très bien. Enfin, pourquoi s'en passer ? Est-ce que le but de l'humanité, c'est pas de se libérer du travail ?
On veut pas du travail.
Mais oui, tu sais, c'est tout ce qu'on sortait sur le 1er mai, c'est exactement ça. Donc c'était très intéressant. Et aussi, cette ouverture de se dire, mais oui, investir, oui, effectivement, pour lancer des gros projets, on a sans doute besoin d'un afflux, voilà, de lancer la machine avec un afflux financier, pourquoi pas, hein, c'est comme ça qu'on peut réguler des échanges. Mais en même temps, on n'a pas forcément besoin d'investisseurs privés, je veux dire, l'État, par exemple, c'est-à-dire un investisseur collectif et démocratique, a priori, si on imagine que le peuple choisirait encore là où va son argent. On a un investisseur collectif qui privilégie certains postes de dépenses et d'investissement. Et là, on peut faire des gros travaux aussi. Mais en fait, cette personne ne le voyait pas. C'était assez intéressant de voir les œillères, en fait, finalement. Mmh. Et qui allait jusqu'à, quand je joue en bourse, je fais du bien parce que je donne du travail et je permets à des gens de vivre. Quoi. Voilà.
Mais... Je te propose une petite pause musicale avec L'Inconsolable. On vaut mieux que ça. Ça, c'était pendant une des premières révoltes de loi travail. Ça date de il y a quelques années maintenant. Hein. C'était en 2015-2016, un truc comme ça.
La réforme du code du travail. C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles. Vaut mieux que ça. Se résigner sans livrer bataille. Qu'ils disent que l'on n'est pas taille. Que les gens acceptent qu'on les assaille. Non, vaut mieux que ça. Qu'on laisse gouverner le patronat. On vaut mieux que ça. Qu'on cesse de gouverner par vos lois. On vaut mieux que ça. Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits. On vaut mieux que ça. La loi et le commerie. On vaut mieux. Et toutes ces conneries. On vaut mieux. Marre de ces moqueries en haut lieu nous. On vaut mieux que ça. Que toute leur tromperie. On vaut mieux. Ça paye pas le bon prix. On vaut mieux. On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais. On vaut mieux que ça. La réduction des temps de repos. Les salaires peuvent faire de gros bons en arrière quand le haut de la pyramide le faut. D'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée. Repos et euros à journée, non. On vaut mieux que ça. Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Les heures partielles à 24 heures. La semaine à 35 heures. Et d'autres acquittent à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs. Des groupes les plus dévastateurs. À qui cette loi fait des faveurs. Que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se gourer. C'est pas pour aider le salarié car on vaut mieux que ça. Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en la virer. Les des salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au mieux de ça, v'là qu'ils pourront se faire sans raison, mais on vaut mieux que ça. Passer de 10 à 12 heures de travail par jour, on vaut mieux. L'extension du dispositif forfait jour, on vaut mieux. Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour, on vaut mieux. Oui, patron Jacques, on vaut mieux, ouais, on vaut mieux que ça. Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser, on vaut mieux que ça. S'enliser dans l'entreprise et se mépriser, on vaut mieux que ça. S'échiner, et se ruiner, et trimer pour des primes et puis déprimer, on vaut mieux que ça. S'abîmer pour pas un rond pour des patrons, on vaut mieux que ça. Sous les recommandations d'Emmanuel Macron, il vaut mieux pas. Chez Fayon, on vaut mieux que ça. Et la pente, c'est ça quand on t'en fait d'affront, on vaut mieux que ça. Faire taf, non, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le fibulo. Pour l'heure, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que bosser au McDo, te mettre en rayon des packs d'eau. On est loin de nos rêves d'ado, c'est vrai qu'on vaut mieux que ça. Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier, on est tous dans le même panier, et on vaut mieux que ça. Notre pouvoir pour en pallier, tant ils vont voir qu'on est panier si on cesse les accompagner, car on vaut mieux que ça. Grève générale, ad vitam aeternam, va-t'y parler, réclame, ta petite parée, c'est le drame pour la bourgeoisie, car Tricard qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme, sans salariat, aïe aïe aïe, ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là? On vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça. Ils ont là appris qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix, pas de prix. On vaut mieux que ça, ouais. On vaut mieux que ça.
Et voilà, c'était l'inconsolable sur les ondes de Radio Campus pour ce tous essentiels où il va falloir aller vachement plus vite pour tous les petits post-it qui restent devant toi.
Mais oui, il y a encore plein de témoignages. Bon, vous avez compris, les gens continuent à travailler en immense majorité, mais beaucoup disent travailler moins. Alors ça, c'est la grande tendance, je ne sais pas si on dit merci au Covid. Donc pourquoi travailler moins? On va d'abord écouter Ahmed H. Inès et Laurent.
S'il y aurait le revenu, du coup, je me permettrais de travailler à mi-temps et de plus me concentrer sur l'écriture et sur l'apprentissage de mon métier que j'aime le plus au monde, comédien.
Ça me permettrait de ne pas abandonner mes passions et pouvoir ne pas m'inquiéter aussi au début ou à la fin du mois de devoir payer le loyer, de devoir payer la bouffe, les accidents de la vie aussi qui arrivent, le médecin, tout ça. Et juste pouvoir me dire, ok, là, dans 10 ans, je peux être musicien si j'ai envie et pas être dans un taf alimentaire juste parce que j'ai pas le choix, quoi.
De continuer la recherche de façon plus sereine. Et d'être contente de savoir que je fais un truc utile qui m'intéresse et qui peut-être aura une utilité plus tard. Et savoir que c'est assez, quoi, et que je peux, si ça va pas, je peux souffler, faire une pause, revenir et continuer dans ça.
Moi, ce que je souhaiterais, c'est de pouvoir me stabiliser professionnellement, pour pouvoir me stabiliser en termes de logement et pouvoir. Éventuellement envisager d'être auto-entrepreneur, créer mon entreprise, ce que j'ai pas réussi à faire en étant au minima sociaux.
Alors du coup, si vous avez bien compris, il y a plusieurs thématiques qui se dégagent. Je vous les révèle. La première thématique, c'est travailler moins juste pour se respecter. Respecter son rythme, respecter son corps. Donc il y en a une qui nous disait « Ah mais je pourrais aller plus vite dans mes projets ». Mais la plupart, c'était quand même ralentissement, plus de sérénité, de tranquillité, moins de stress. Il y en a un qui nous a raconté, 53 ans, qu'il aimerait bien rompre son CDI parce qu'il est au bord du burn-out et qu'il aimerait bien pouvoir le rompre sans tout perdre pour une reconversion professionnelle qu'il a déjà planifiée. Sauf que voilà, si son patron ne veut pas lui faire de rupture conventionnelle, il ne pourra pas partir parce qu'il n'aura rien.
Quand on divorce non plus, on n'a rien.
Quand on divorce non plus. Alors, certains nous ont mis juste qu'ils auraient du temps pour penser, pour rêver. Et certains ont juste écrit le mot rêver ou le mot vivre, tout juste. Certains pour avoir plus de repos ou même partir en retraite plus tôt. Est-ce que ça pourrait parler à des gens en ce moment? Quelqu'un m'a dit « prendre soin de moi et de ma santé mentale ». Plusieurs personnes entre 45 et 50 ans nous ont témoigné que leur corps récupérait pas aussi bien qu'à 20 ans. Non. Et que c'était en termes de charge mentale ou en termes de charge physique que le corps avait aussi des séquelles de plusieurs années de travail. Et donc, pouvoir réduire son temps de travail en fin de carrière ou à partir du milieu de carrière, c'était pas mal. Et une personne que j'ai beaucoup aimée a écrit qu'elle achetait une île déserte.
Oh.
Ça me parle bien. Pas tout le temps, mais quelquefois, Donc ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance du travailler moins, c'est d'être en accord avec ses valeurs. Alors, j'ai envie de vous parler de cinq jeunes psychiatres qui sont passés, donc certains déjà en poste, certains encore en internat, et qui nous ont raconté que ça leur permettrait d'être plus en accord avec leurs valeurs, de refuser certains ordres, comme par exemple de passer moins de temps avec les patients. Et du coup, eux voudraient, au contraire, pouvoir vraiment prendre le temps avec les patients, et même, finalement, ils travailleraient plus parce qu'ils pourraient en plus donner, donc non seulement prendre vraiment le temps, mais en plus donner certaines consultations gratuitement pour ceux qui n'ont pas les moyens. Et de la même façon, il y avait une prof qui a témoigné que elle prendrait moins de classes, donc elle travaillerait moins pour pouvoir mieux s'occuper de ses élèves, parce que là, c'est juste frustrant, que ce soit en termes de préparation de cours ou en termes de suivi individuel des élèves. Quelqu'un nous a dit « ça serait bien, on ne serait pas obligé de se dire « bon courage pour la rentrée ». Quelqu'un a dit « je pourrais réaliser mes rêves d'enfant ». Ou travailler, même si je suis moins payée qu'aujourd'hui, dans un travail moins rentable. Quelqu'un a écrit « travailler moins pour le capital que pour les gens ». Le thème écolo a surgi aussi. Parce que écolo, finalement, être écolo, ça coûte cher. Acheter moins de plastique, acheter bio, tout ça. Quelqu'un m'a dit « je pourrais manger ce que je veux et plus sainement et m'habiller plus éthique ». Plusieurs ont parlé de fermes, d'éco-village, de travailler la terre, vivre en autonomie et apprendre aux autres à le faire. On a parlé d'agroforesterie, de potager, voyager, ralentir, être plus au calme. Et j'ai envie de vous parler d'un petit bonhomme qui a 70 ans, qui est arrivé à vélo et qui lui a dit « non mais ça m'intéresse pas, moi je prends de la sobriété ». Voilà, que chacun puisse pouvoir faire son petit jardinage, sa couture, ses repas. Et en fait, en discutant, ce qui l'embêtait dans le revenu de base, c'est que ça dissocie le travail du revenu. Et en fait, je lui ai retourné le cerveau. Il a dit que c'était un peu difficile à 70 ans, parce qu'il y avait des choses qui étaient assez ancrées. Mais oui, de se rendre compte que le revenu de base, finalement, c'était aussi une façon de reconnaître des activités qui n'étaient pas marchandes, comme par exemple son jardinage. Parce que quand on a un boulot à temps plein, le jardinage...
C'est compliqué. Hein.
C'est compliqué à caser en termes d'énergie. Et là, on vient d'entendre Laurent qui parlait de lancer son entreprise. On trouve beaucoup de gens, j'ai entendu, ouvrir un café fleuriste librairie.
Ah bah oui.
Ou un bar à choupitos. J'ai pas trouvé ce que c'était, mais ça a l'air sympa, rien que le nom. Donc envisager un projet sans avoir trop peur de se rater. Et le quatrième thème qu'on a entendu, c'est équilibrer l'art, le sport ou même l'artisanat, parce que c'est pas des trucs qui sont souvent rémunérateurs. Donc un entraîneur sportif, par exemple, qui aimerait bien ne pas perdre sa pratique. Quelqu'un qui écrit « j'écrirai toute la journée » et entre parenthèses « je lirai la nuit ». Je reprendrai alors ma guitare acoustique, recouverte depuis longtemps d'une épaisse couche de poussière. Et enfin, dernier thème, ceux qui travailleraient moins pour équilibrer avec d'autres activités. On va écouter Faustine et Nathalie.
Ça me permettrait de retrouver du temps dans ma vie perso pour reprendre une activité et sportive et culturelle. Reprendre aussi une vie un peu plus que ce que je fais aujourd'hui à cause du boulot et à cause des obligations. Donc là, on changerait la vie de tout le monde, parce que même les précaires et ceux qui doivent enchaîner les boulots pourraient retrouver du temps pour eux, profiter de leur famille, être solidaires. Et ça, c'est quand même super important.
Je pense que je déciderais de moins travailler, de prendre un temps partiel pour pouvoir faire plein d'activités bénévoles que je ne peux pas faire aujourd'hui. Ce que j'aimerais vraiment faire, c'est par exemple de l'alphabétisation pour les nouveaux arrivants, les gens qui viennent des pays étrangers et qui arrivent en France, quel que soit leur statut. J'aimerais faire de l'aide scolaire pour les enfants qui ont des difficultés, donner des cours d'anglais, faire des exercices de maths pour réduire les inégalités scolaires.
Vous vous rendez compte? Mais c'est pire que ce qu'on pensait. Non seulement les gens continuent à travailler, mais en fait, ils continuent à travailler pour travailler plus. Je pense qu'on est dans un pays de maso. Pour conclure cette émission, je voudrais envoyer quelques merci. Un merci d'abord au Café Citoyen, qui organise son petit marché associatif à la braderie, qui nous permet d'avoir un stand et de toucher autant de gens aussi différents. Je voudrais remercier toute l'équipe du groupe local du Revenu de Base Lille. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on a un Facebook, on se voit une fois par mois, c'est très joyeux, on débat, on change le monde. Merci à toi Max de donner cette audience à ces 500 personnes qu'on a rencontrées et puis à nous en particulier. Merci aux 500 personnes qui nous ont répondu, qui ont accepté de réfléchir. Et je voudrais conclure sur un tout dernier merci particulier. à la prochaine femme politique ou au prochain homme politique qui osera écouter tous ces témoignages, qui osera voir le potentiel du revenu de base et qui osera le reporter. Après Benoît Hamon, je suis sûre qu'il y a une version qui pourrait être portée, au moins une, pour les prochaines élections.
Eh bien oui, on va croiser les doigts.
Et nous donner un peu d'espoir.
Voilà, c'est ça. Ben là, il nous reste 20 secondes pour dire au revoir. Virginie, merci à toi. Au revoir à la... Ah oui, et puis au mois prochain.
Oui, où on retrouvera notre cycle des versions du revenu de base.
Eh bien oui, on a hâte. Bonne semaine à tous. Nous, on se retrouve vendredi peut-être.